surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Les dossiers du journal de Millau en ondes.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus.
Tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, les journalistes du journal de Millau passent du stylo au micro.
J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre, abusé des grands reporters. Des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images, et sous leur toison lisse se glissent des scies.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Larzac pour ce nouveau rendez-vous des dossiers du journal de Millau. Alors quelques jours après le 1er mai, le dossier de cette semaine s'intéresse à l'histoire sociale de Millau, l'occasion de replonger dans le passé de la cité gantière, mais aussi d'évoquer des mouvements plus récents. Mais également d'étendre un petit peu aux mouvements sociaux du territoire. Et pour évoquer ces épisodes historiques, notre interlocuteur du jour est Michel Delmouly, ancien professeur d'histoire et membre actif de l'association La Main Chaude. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors avec La Main Chaude, association pour la promotion de l'histoire locale qui fonctionne de façon collective et horizontale, vous avez étudié et documenté les événements dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et expliquer comment vous est venu cet intérêt pour l'histoire locale ?
L'intérêt pour l'histoire locale est naturel pour quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire depuis toujours. Je suis géographe de formation et historien, et donc la géographie, c'est de l'histoire du moment. Donc oui, l'intérêt est naturel, ce d'autant plus que bon, j'ai fait une maîtrise une maîtrise de géographie dans les années 70, il y a bien longtemps, sur la région, et l'intitulé de cette maîtrise, c'était les rapports agriculteurs-industrie dans la région de Roquefort. Donc oui, l'histoire sociale, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Je suis né à Decazeville, et j'ai donc plongé, baigné dans tout ce qui concernait les luttes sociales. Ma première manifestation à laquelle j'ai participé, c'était en 1961 pour défendre avec mes parents, ma famille qui était concernée, les mineurs qui étaient menacés de perdre leur emploi, ce qui s'est produit effectivement après la grande grève de Decazeville qui s'est déroulée au fond de la mine, comme on ne le sait plus aujourd'hui parce que c'est une histoire qui est un petit peu gommée. Donc oui, l'histoire sociale, elle fait partie de, comme on dit aujourd'hui, de mon ADN.
Justement, le premier événement sur lequel je souhaiterais revenir, c'est la grève des cabanières de Roquefort, qui a eu lieu en 1907 et a été donc de courte durée, du 30 mai 15h au 2 juin.
Voilà, une grève très courte.
Très courte, menée par des femmes.
Menée par des femmes exclusivement, et une grève très courte et d'une grande efficacité, puisque elles ont obtenu satisfaction après ce court laps de lutte. En effet, il n'y avait pas de moyen de conserver le lait à cette époque-là, il n'y avait pas de réfrigération suffisante, ça commençait à exister, mais il n'y en avait pas suffisamment. Donc le sous-préfet de Sainte-Afrique, puisque Sainte-Afrique était doté d'un sous-préfet, c'était un arrondissement à cette époque-là, a pressé les employeurs pour qu'ils concluent, parce qu'ils sentaient que les agriculteurs allaient sortir les fourches. Hein. Et donc, oui, effectivement, c'était une grève très courte, très bien menée, par, entre autres, la citoyenne Sorgue, dont on évoque l'histoire dans le numéro sorti le 1er mai, le numéro 11 de La Main Chaude, et par des cabanières qui se sont organisées d'une façon extrêmement intéressante, avec un collectif qui réunissait la totalité des cabanières, et qui a effectivement obtenu satisfaction sur les revendications du salaire, les revendications donc de ce qu'ils appelaient le service, c'est-à-dire le logement et la possibilité de prendre les repas où elles le souhaitaient, mais aussi et c'était formulé d'une façon très atténuée, très, très euphémisée, des rapports nouveaux avec les contremaîtres, qui, comme il y avait là une population de jeunes filles, hein, mais qu'à manière était jusqu'à 30 ans en gros, hein, enfin 30, quelques cabanières travaillaient après, mais c'était des jeunes femmes. Un certain nombre de contremaîtres se permettaient quelques privautés. Et c'est formulé d'une façon extrêmement euphémisée. Il est dit dans un texte remis au sous-préfet et aux employeurs, nous n'hésiterons pas à dire aux parents des jeunes filles qui sont employées à Roquefort ce qu'il leur arrive ou ce que certains leur font, enfin, etc. Donc ça a été traité par une historienne sous le titre, enfin, elle a réuni plusieurs situations de même type, le droit du cuissage au 19e siècle et au début du 20e. Parce qu'effectivement, il s'agissait de cela. Et donc, elles ont obtenu satisfaction en 3 jours et demi de lutte, ce qui est extraordinairement court par rapport à la longueur des grèves entières.
Juste pour terminer sur les cabanières, donc le métier aujourd'hui n'existe plus. Et donc, c'était les femmes qui étaient chargées
De brosser, nettoyer, de retourner, d'emballer le fromage. Et rapidement, elles ont été remplacées par des machines. Au moment de la grève, elles sont à peu près 600, mais 10 ans auparavant, elles étaient 900. Donc, bon, effectivement, là, on est dans un moment de décrue. Et puis, les dernières ont disparu dans les années 2010, je crois, mais elles étaient employées au pliage des fromages les plus chers, le très haut de gamme.
D'accord, et donc elles travaillaient dans des conditions difficiles parce qu'elles étaient...
Absolument, avec des sabots pour les isoler de l'humidité et du froid des caves. Oui, avec des vêtements de laine parce qu'il faisait froid, enfin oui. C'est quelque chose qui n'a pas été très documenté. Les maladies professionnelles à Roquefort, lorsque j'avais fait ma maîtrise dans les années 70, c'est un sujet que j'avais essayé d'aborder, et puis ça a été compliqué, hein, parce que bon, travailler dans ce climat froid, puisque la température est autour de 11, 12, 13 degrés, un petit peu moins, l'humidité avec une hygrométrie très élevée, sans être médecin, on peut penser effectivement que ça génère des douleurs articulaires, des problèmes pulmonaires, en fait, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles personne, y compris les salariés, ne répondait. Hein? Donc effectivement, c'était des conditions de travail difficiles pour ces jeunes femmes.
Donc vous l'avez évoqué un petit peu, les autres événements sur lesquels je souhaiterais revenir, ce sont les grèves des gantiers, donc là qui ont profondément marqué l'histoire sociale de Millau. Il y en a eu plusieurs.
Oui.
Lesquelles sont les plus marquantes?
Alors, c'est la grève de 1911 et la grève de 1935, bien évidemment, qui était dans les mémoires encore il y a quelques années, mais qui s'efface maintenant, forcément. Bon, la grève de 1935, hein, les personnes qui l'ont vécue sont mortes depuis quelques années, depuis un moment. Donc, oui, la grève de 1911, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle pose les modalités d'action de toutes les grèves qui viendront après. Il s'agit de grèves avec une organisation collective extrêmement intéressante qu'on a documentée dans la première publication de l'association. Il s'agissait donc d'une grève pour les revendications salariales. De toute façon, les grèves de Millau ont toujours été des grèves qui étaient liées à des augmentations de salaire. Parfois, alors c'est sur des durées beaucoup plus courtes, des organisations du travail avec la demande de renvoi d'un contremaître, une réorganisation du travail, une diminution de l'horaire. Mais pour l'essentiel, ce sont des revendications salariales. Et donc, pour souder, maintenir la combativité des salariés, les organisations qui conduisaient la lutte en 1911 ont organisé d'abord des repas collectifs avec des marmites collectives qui étaient servies, des repas qui étaient servis à la Maison du Peuple. Et quelque chose de très original qui venait juste d'être expérimenté ailleurs à Fougères par exemple ou à Mazamet l'année auparavant. Il s'agit de l'exode des enfants. Les familles qui n'étaient pas concernées par la grève adoptaient temporairement, c'était le terme employé, des adoptions temporaires, les enfants de grévistes, pour donc les soustraire aux problèmes de la famille et que ces enfants puissent être nourris. Et donc, il y avait des cahiers avec des familles qui se déclaraient, par exemple, des fonctionnaires, des instituteurs, qui, eux, n'étaient pas concernés par la grève, qui prenaient, pendant le temps de la grève, chez eux, à leur table, dans leur lit, enfin, dans le lit des enfants, les enfants de grévistes. C'était une modalité extrêmement intéressante. Et donc, cette grève, qui a duré à peu près 3 mois, s'est conclue par une demi-victoire. Mais bon, elle a été poursuivie, donc c'était la grève de 1911 à 1913, par une deuxième grève qui est venue compléter le demi-succès de la grève de 1911. Alors donc, cette grève est extrêmement importante. Bon, ça a été l'objet de notre premier fascicule. Et puis, il y a ensuite la grève de 1935, bien évidemment, puisque c'est la grève la plus longue que Millau ait connue. 24 décembre 34, 31 mai 35, hein, une grève donc extrêmement longue de 5 mois et demi, avec pour cette grève de 1935 quelque chose de particulier, une occupation quasi militaire, puisque c'était la gendarmerie mobile qui occupait la ville, avec au plus fort de la mobilisation militaire, en gros 300 gendarmes mobiles qui étaient cantonnés dans les usines, dans la chambre de commerce, etc., ou dans des hôtels pour les officiers. C'est une grève qui, effectivement, est restée dans les mémoires parce que, par exemple, place Foch, dans les petites rues du vieux Millau, il y a eu des affrontements nombreux et violents entre les jeunes grévistes, ou les grévistes d'une part, et d'autre part, les gendarmes mobiles. Et là aussi, c'était une grève qui s'efforçait de lutter contre la volonté patronale de baisser les salaires de 25 à 33%. Hein, on est en avant, bon, les difficultés de la période. Bon, on est quelques années après la crise de 29. Le marché américain venait de se fermer. Et donc, une baisse de rémunération qui faisait que les familles étaient dépourvues ensuite de moyens de subsistance. Parce que les salaires, dans la ganterie étaient corrects, entre guillemets. Mais 33% de diminution, ça les ramenait à l'os.
Pour avoir une idée, peut-être du nombre de familles qui étaient concernées à l'époque par cette grève, justement, enfin, qui étaient possiblement impactées par ces mesures.
Alors, la population ouvrière de Millau, dans ces années-là, qui est concernée par les cuirs et peaux, c'est à peu près 7000, plus de 7000 personnes. Il y a là, donc, les mégissiers, quelques restes de tannerie, parce que la tannerie est en train de mourir, de disparaître. La tannerie, c'est le travail des grosses peaux, les peaux d'équidés ou de bovins, hein, de chevaux ou de vaches. Et donc la mégisserie, qui elle était florissante, et la ganterie. Alors, au niveau des familles concernées, le nombre était de l'ordre de, entre gantiers et gantières, il y avait à peu près 4000 personnes. Hein. Donc, avec beaucoup de gantières, les femmes étant toujours venues dans les luttes millavoises en appui aux grèves qui étaient décidées par les hommes et notamment par les coupeurs qui représentaient la pointe de la pyramide sociale, hein, les coupeurs qui sont essentiels au travail dans la ganterie. Et donc, qui étaient les mieux payés, et c'est eux qui étaient les plus combatifs. Les couturières, les ouvrières en ganterie, donc, venaient en appui, et c'était souvent des ouvrières à domicile, enfin, souvent, des ouvrières à domicile pour une bonne moitié, hein, puisqu'il y avait à peu près une répartition égale entre le travail à domicile et le travail en usine. Donc oui, une population extrêmement importante concernée par la grève.
Est-ce que sur d'autres territoires, il y a eu des équivalences de mouvements à ces périodes?
Oui, au début du XXe siècle, il y a des grèves très bien documentées, notamment à Mazamet, à Fougères, dans le domaine des cuirs et peaux. Hein, Fougères qui a inauguré l'exode des enfants dans le domaine des cuirs et peaux, l'exode des enfants et les soupes communistes, hein, puisqu'elles étaient appelées ainsi, l'adjectif communiste signifiant avant que le Parti communiste n'existe en commun. Donc Fougères, Mazamé, Grouillet, mais Mazamé surtout, oui. Il y a eu des grèves importantes, et puis bon, il y a, dans le département, il y a eu de Cazeville des grèves extrêmement importantes qui étaient dans les mémoires, notamment la grève de 1886 à de Cazeville, la grève de 1869 à Aubin, où l'armée a tiré sur les grévistes à Aubin, faisant mémoire, je crois, 13 ou 14 morts, dont 2 ou 3 enfants, ce qui a valu à Aubin un poème de Victor Hugo, hein, Aubin, de quel pays es-tu, d'Aubin, n'est-ce pas là qu'on a tué, oui, la mine prospérait, la misère, etc. Enfin, un très beau poème que bien de mes élèves ont entendu. Donc, il y a eu cette grève-là, puis la grève de 1886, qui a été une grève extrêmement importante, qui a valu à de Cazeville d'être occupée par la gendarmerie mobile, l'armée à l'époque, puisque les mineurs grévistes, et là aussi, ils protestaient contre une baisse de la rémunération. On leur imposait une baisse de la rémunération qui était de 10 à 20%. Et donc, ils ont, en colère, ils ont occupé les locaux des ingénieurs, puisqu'il y avait une hiérarchie très, très structurée, très forte à Decazeville. Et ils ont fait passer par la fenêtre, défenestré l'ingénieur Vatrin, qui est mort, tombé la tête la première dans la rue. Quand vous passez à de Cazeville, c'est en haut de la rue Kérade, lorsqu'on redescend là. Et donc, il y a eu là un mouvement extrêmement important qui a valu à de Cazeville d'être au cœur de l'actualité jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Hein. Lorsqu'il y avait des mouvements de violence de ce type, les ouvriers coalisés utilisaient le terme de vatrinade. S'en prendre donc à la hiérarchie. Donc il y avait d'autres luttes ailleurs, hein. Et puis dans le département, donc il y avait de toute façon deux pôles qui passaient par-dessus Rodez. Rodez qui était une ville de l'administration, une ville de fonctionnaires pour l'essentiel à cette époque-là. Il y avait de Cazeville d'un côté et Millau de l'autre. De Cazeville avec les mines, Millau avec la ganterie, de Cazeville avec de gros syndicats et une organisation collective qui était plus poussée qu'à Millau, avec par la suite un de Cazeville qui deviendra plutôt communiste, alors que Millau restera là dans ces périodes-là plutôt libertaire. Hein. C'était la nature du travail qui déterminait ses orientations politiques, enfin qui poussait à ses orientations politiques.
Et alors justement, Millau était et peut-être encore toujours une terre où les idées libertaires ont circulé plus qu'ailleurs.
À Millau, oui, ouais. Les idées libertaires ont circulé plus qu'ailleurs. On a documenté le récit d'un anarchiste il s'appelait Moisset, qui est après une période de d'errance anarchiste, il est passé un petit peu partout, Montpellier, mais ensuite surtout Sète, Marseille, etc., est revenu penser se mettre au vert à Millau, parce que c'était une ville, effectivement, où il avait trouvé, où il savait qu'il trouverait des camarades. Et puis, il a eu quelques ennuis, et il a fini sa vie en Guyane, il est mort rapidement après être arrivé en Guyane. Oui, c'était une ville où il y avait des idées libertaires qui circulaient, puisque, alors je me souviens, 1907 ou 8, le commissaire de police signale qu'il se vend 25 numéros du Libertaire et des Temps Nouveaux, qui sont deux publications libertaires, à Millau, ce qui est important. La diffusion de ces publications étant relativement confidentielle. Donc il y avait des idées libertaires. On a retrouvé une photo qu'on a publiée de Gantier qui, avec le journal Le Libertaire et leur tablier de Gantier, pose avec leur avocat parce qu'ils ont subi des condamnations qu'ils avaient affichées. On a trouvé aussi, dans le même domaine, des libres penseurs qui étaient extrêmement importants et qui ont publié des papiers dans un journal anticlérical qui a pour titre La Calotte. On trouve ces numéros-là sur Gallica, hein, sur Internet. Il y a quelques publications mihiavoises d'une violence de termes, notamment concernant une procession qui a été interrompue à Millau après la loi de séparation de 1905, qui sont aujourd'hui, je pense, impossibles à publier, que le journal de Millau ne publierait pas, parce que vous risqueriez le procès. Oui, il y avait donc tout ce mouvement d'idées. Ce mouvement d'idées, alors c'est très intéressant, on peut presque en dater le début. Dans notre éditorial là, du numéro 11, on dit que les historiens s'intéressent aux dates charnières. Hein. Et là, il y en a une concernant ce mouvement-là. C'est les obsèques d'un mégissier qui s'appelle Jeanne Selle, qui a donné son nom à la rue et à l'école. C'est un mégissier qui avait fait fortune, qui était né protestant et qui est mort sans l'accompagnement d'aucune religion. Et ce mégissier, qui était donc libre penseur, franc-maçon et libre penseur, donc a fait l'objet d'une attaque d'une violence extraordinaire par les journaux catholiques de l'Aveyron, où son enterrement a été comparé à l'enterrement d'un chien, enfin des termes extrêmement violents. Et c'est la première manifestation donc publique de la volonté d'un libre penseur de s'affranchir des églises. Donc on est à la fin du 19e et à partir de là, effectivement, il y a eu un mouvement qui s'est développé plus publiquement. Un autre moment qui a été extrêmement important, on l'a documenté aussi, c'est lorsque Millau, en 1909, a été une des premières villes de France à donner à une de ses rues le nom de Francisco Ferrer y Guardia, Francisco Ferrer. C'est la rue qui se trouve en face de la mairie. Elle portait ce nom depuis 1909 et il n'y avait comme indication à l'entrée de la rue que le nom rue Ferrer, c'était tout. Tout le monde à Millau avait fini par oublier, ignorer que Ferrer, c'était un anarchiste, un libertaire espagnol, un pédagogue, dont Freinet, dont vous avez entendu parler, ou Montessori, hein, ces pédagogies donc, où l'enfant est au centre, et avec une organisation du travail scolaire particulière. Donc Ferrer a été fusillé à Barcelone, en 1909, rendu responsable, comme Socrate l'avait été, de polluer la jeunesse en lui donnant de mauvaises idées. Et donc, à Millau, il y a un groupe qui s'est constitué autour d'un leader qui s'appelait Hippolyte Chosy, qui est devenu le leader de la grève de 1911, deux ans après, et qui a bataillé contre la mairie, mais bon, avec beaucoup d'intelligence, pour qu'une rue porte le nom de Ferrer. Un mois après sa mort, donc Millau a été une des premières villes de France. Et ça, c'est tout à fait la marque de ce courant libertaire, puisque Ferrer était effectivement le représentant dans ces années-là du mouvement libertaire espagnol. Un mouvement libertaire qui n'est pas le mouvement des poseurs de bombes. Hein. C'est un mouvement qui vise à développer des idées communautaires, des idées oui communautaires. C'est la valeur d'exemple de l'individu dans sa vie, dans ses idées qui comptaient. Et donc il y a eu satisfaction, cette rue, et donc nous, à la main chaude, nous avons repris cette bataille que Hippolyte Chosy avait initiée, et donc on a obtenu de la municipalité du Rang, donc ça remonte à quelques années, qu'il y ait un petit panneau à l'entrée de la rue, en face de la mairie, là, hein, qui précise que c'est un pédagogue libertaire qui a été donc fusillé, assassiné à Montrouy, à Barcelone, pour que les Millavois ne confondent pas Ferrer avec le chanteur.
Alors justement, plus récemment, là, dans une des parutions de La Main Chaude, vous dressez un parallèle entre les mobilisations gantières et le conflit social qui a eu lieu à la poste de Millau du 17 octobre au 28 novembre 2023. En quoi ces événements peuvent-ils être rapprochés? Quelles sont les similitudes?
Les similitudes, c'est d'abord la durée. La grève des postiers a duré 43 jours, je crois. Oui, 43. C'est la durée correcte d'une bonne grève des Gantiers pendant la période de la splendeur gantière. Il y a eu des grèves plus longues, il y a eu des grèves plus courtes, mais effectivement, c'est une grève qui, par sa durée, peut s'identifier aux grèves que les Gantiers ont conduites. Et d'autre part, c'est une grève dans laquelle on a vu s'exercer des modalités de solidarité intéressantes. Par exemple, la Confédération paysanne est venue apporter son soutien, mais son soutien aussi en termes de légumes qui étaient présentés sur les marches qui conduisent à la poste. Et donc, il y a eu des modalités qui rappellent un petit peu, les modalités des grèves d'hier.
Alors justement, la société évolue. Est-ce qu'on peut parler d'une mémoire sociale qui existe quand même ?
Alors oui, il existe une mémoire sociale. Les syndicats s'efforcent de la cultiver. Il existe une mémoire sociale que l'on retrouve le 1er mai, par exemple. On remarque, lorsqu'on diffuse notre revue, La Main Chaude, la mémoire au Gantier, La Main Chaude étant l'outil qui parachève, qui marque la fin des 60 opérations qui ont conduit à la production du gant, on remarque qu'il y a effectivement un grand intérêt pour l'histoire sociale. Ce 1er mai, on a reçu, par exemple, beaucoup d'encouragement à poursuivre. Il y a de l'intérêt, même si aujourd'hui, Millau est passé à autre chose. Millau n'est plus une ville industrielle. Jusqu'aux années 70, Millau était une ville qu'on pouvait comparer à Romans, par exemple, ou à Thiers, la capitale du couteau, Romans, la capitale de la chaussure. Il reste quelques couteaux à Romans. Romans, la chaussure s'est terminée, puisque le dernier grand chausseur vient de mettre la clé sous la porte. Ça c'est une histoire qui se tourne. Mais la mémoire sociale, il y a de l'intérêt toujours, y compris chez certains jeunes. Et c'est quelque chose de gratifiant pour ceux qui y consacrent une partie de leur temps.
Alors justement, vous venez là de présenter la dernière revue de La Main Chaude. Vous travaillez déjà sur la prochaine publication ?
Avec l'expérience acquise, on s'efforce d'avoir des sujets d'avance. Et là, par exemple, dans le numéro 11, on a mis de côté un certain nombre d'articles qui sont prêts, donc qui seront pour les lecteurs de 2026. Un papier, par exemple, sur les charbonniers, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grosse activité autour du charbon de bois pour alimenter les gazogènes. Et pour les marcheurs du COS, on retrouve des marmites près de la Salvage, mais aussi près de Saint-Germain, qui ont servi à la production de charbon de bois. Donc on a fait un petit papier autour de cette activité, qui aujourd'hui, bien sûr, a disparu. Et on a un projet de travail sur la CGT pendant la guerre. On a un projet de travail sur une élection curieuse en 1869, où on retrouve là des agents électoraux qui font pression. On se croirait dans quelque chose d'aujourd'hui, un petit peu. Alors c'est pas par les moyens des réseaux sociaux, mais c'est par des moyens plus directs. Enfin bon, voilà, on a du travail, on est là encore pour quelques temps.
Donc encore plein d'aspects de l'histoire locale à découvrir.
Tout à fait.
Avec La Main Chaude, merci beaucoup Michel pour avoir répondu à nos questions. On se quitte donc sur cette dernière réponse. Merci.
Merci.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. We'll be right back.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent des scies. Superposition de supposition, ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les...
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf publicité.